Il avait mis des roues. Je pensais que c'est moi qui avais foulé. Ça ne serait pas étonnant. Hein? De toute façon, c'est pas tellement important que vous me voyez. C'est que de m'entendre est important. Hein? En fait, c'est ça. Ceux à qui je n'ai pas pu saluer, je vous salue. Comme dit la parole, je vous salue bien bas. c'est toujours un privilège, grand privilège de s'arrêter en premier jour de la semaine, se rappeler du Seigneur. Bien sûr, on doit s'en rappeler tous les jours, évidemment. Mais c'est une occasion quand même particulière, ce premier jour de la semaine, puis le faire comme le Seigneur nous demande, hein, se rappeler de lui dans les emblèmes, en partageant le pain et la coupe. Donc, c'est... Et comme on dit souvent, est-ce que c'est le dernier dimanche qu'on vient de faire ça? Peut-être. Qui sait? Le Seigneur n'a pas donné de date pour venir chercher son Église. C'est à tout moment, n'importe quand. C'est la doctrine de l'imminence qu'on appelle. Hein? N'importe quand. Le Seigneur peut venir là. Et en un instant, en un clin d'œil, hein, au son de la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront. Mais ce n'est pas le message de ce matin, mais c'est bon qu'on s'en rappelle régulièrement. Vive comme s'il allait venir là, là. Et ça va changer beaucoup de choses dans notre vie à ce moment-là. Je vous invite à tourner dans les 2e Timothée, chapitre 3. 2e Épître à Timothée, chapitre 3. C'est juste un verset. Et le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Et un dernier passage, Colossiens, chapitre 2, et le verset 6. Colossiens 2, verset 6. En fait, c'est 6 et 7. Hein? Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Ce matin, c'est un message quelque peu de saison. Vous allez peut-être trouver ça un peu particulier, mais je vais parler du sapin de Noël. Il y a une histoire, ce sapin-là. Je ne vais pas vous en passer un en disant ça. Non, non, non. Il y a une histoire qui s'accache derrière tout ça. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai pris de l'information, des choses que vous savez certainement, mais question de s'en rappeler, c'est une raison pour être fier, entre autres comme Québécois. Le Québec, c'est le principal producteur de sapins de Noël, vous savez ça? Le principal producteur et exportateur de sapins d'arbres de Noël au Canada. Le province, on exporte 71% des arbres canadiens. Principalement, on les envoie vers les États-Unis. Je ne sais pas si ça va bien passer à la frontière cette année, mais c'est vers les États-Unis. Et l'industrie emploie au Québec près de 273 entreprises qui travaillent sur une surface de 9500 hectares de terrain, de terres cultivables. C'est à peu près une centaine de kilomètres carrés, ça. C'est quand même important. Donc, on cultive du sapin. Et la production, ça, c'est certainement quelque chose que vous savez aussi, se concentre particulièrement en Estrie et en Chaudière-Appalaches. Je veux dire, Appalaches, c'est la Beauce, entre autres. Et il y a une chose que j'ai lue qui m'a impressionné, c'est que la culture de cet arbre-là exige une longue période de préparation. Ça prend environ 14 ans pour produire un sapin de 2,5 mètres. Ça, c'est 8 pieds. 14 ans. Il pousse pas vite, le sapin. Hein? Il prend son temps. Mais il est tellement beau. Hein? Là, c'est vrai que c'est un bel arbre, quand même. Et j'ajoute à cela des investissements considérables pour la culture, tout ce que ça implique. L'origine. Maintenant, l'origine du sapin de Noël, ça remonte à la Renaissance. Ça, c'est au 16e siècle, dans les années 1500. Dans les pays, ça a commencé dans les pays germaniques, comme l'Allemagne, l'Autriche, d'autres pays aussi. Donc, 16e siècle, vers 1510, que là, le sapin de Noël est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, dans l'Antiquité, c'est bon de mentionner que dans l'Antiquité, c'est-à-dire au Moyen Âge et dans l'Antiquité, l'arbre en général, n'importe quel arbre, c'est un symbole puissant. Le paganisme était quand même très répandu. L'arbre incarnait la vie, la fertilité, la sagesse, la connexion entre le ciel et la terre. C'est pas rien, hein? C'était un objet de culte, l'arbre. Puis, il était vénéré, bien sûr, dans de nombreuses cultures, puis il était parfois considéré comme sacré, hein, parce qu'il y en a qui adoraient directement les arbres, c'est pas compliqué. Alors, j'ajouterais aussi que dans l'Antiquité et à l'époque médiévale, l'arbre était un symbole, et là, ça nous amène dans notre sujet, là. L'arbre était un symbole de renouveau de la vie. De renouveau de la vie. Ça, c'était un thème traditionnel païen, là. Et c'est le chêne, entre autres, qui incarnait ce renouveau. Le chêne, c'est un arbre majestueux, hein. Puis, on dit parfois, ça prend 3 mois faire une citrouille, puis ça prend 100 ans faire un chêne. C'est du solide, c'est du gros, c'est du beau. Un chêne peut vivre, vous devez savoir ça, mais moi je ne savais pas, il peut vivre jusqu'à 900 ans. 900 ans, presque 1000 ans, mes amis. C'est un monsieur, hein? C'est pas un bonsaï. Il n'y a pas d'erreur. Alors, ce symbole de renouveau de la vie, incarné par l'arbre, ça a été repris par le christianisme. Et là, on s'en vient, là. Et à la différence qu'on a choisi un arbre spécifique pour symboliser le renouveau de la vie, on a choisi un arbre particulier pour perpétuer la coutume. Et on devine ce qu'on a choisi? Le sapin. Le sapin. Bon. Sapin, encore une fois, on est en terrain inconnu, c'est un conifère à feuilles, on appelle ça un conifère à feuilles persistantes. Feuilles, plutôt des aiguilles, hein? Pas grand feuille d'un sapin, mais quand même. Et aussi, le sapin peut atteindre de 20 à 50 mètres de haut, dans un endroit idéal, on va dire, hein? De 20 à 50 mètres de haut, et même jusqu'à un diamètre de 3 pieds, 1 mètre à la souche. Donc, c'est comme j'ai dit, c'est pas un bonsaï, c'est un monsieur. Maintenant, on sait très bien que ces aiguilles demeurent vertes toute l'année. Toute l'année. Et ça, c'est un symbole très fort. Et ça illustre le fait que jamais ces aiguilles vont jaunir, toujours vertes. Ça illustre la renaissance de la vie au solstice d'hiver. Le 21 décembre, ça va être dimanche prochain. On va être au solstice d'hiver. On connaît ça. C'est là où le jour est le plus court, dans l'hémisphère nord, bien entendu. Alors, le 21 décembre, c'est la période où le soleil est à son plus bas. Hein, il est en rose-motte, là. Il se lève, puis il se recouche vite. Disons qu'il veille pas tard, hein? Alors, donc le soleil est à son plus bas le 21 décembre, mais là, tout de suite après, il reprend sa course ascendante. Petit à petit, là, les jours rallongent tranquillement, puis le moral nous remonte en même temps, hein, d'habitude. C'est comme, voyez-vous, c'est comme la victoire de la lumière sur les ténèbres. la victoire de la vie sur la mort. Donc, il y a un symbole très fort ici, là. Et le sapin, lui, qui est toujours vert, bien, il symbolise ce principe-là. Une vie constamment renouvelée, une vie éternelle. Bon, OK, entre guillemets, là, ici. Mais une vie qui est constamment renouvelée par ce sapin toujours vert. Mais bien sûr, le sapin qu'on décore à Noël, il ne va pas demeurer vert bien longtemps. Hein? Il ne fera pas vieux os, il ne fera pas vieille branche. Parce que la simple raison, c'est qu'il est mort, on l'a coupé. Et ça nous amène à un événement que peut-être vous connaissez. J'avais lu ça il y a plusieurs années, puis je l'ai relu cette année pour voir si ça se passe encore, cet événement-là. Bien oui. Depuis longtemps, on plante un sapin de Noël au centre-ville de Strasbourg. C'est en France. C'est dans l'est de la France. C'est collé sur l'Allemagne, ça, Strasbourg. Chaque année, peut-être notre sœur le sait, qui est mère en Autriche, pas si loin. Alors, cette année, c'est la même chose, la même tradition. À l'aide de deux grues, rien que ça, hein, deux grues, on a installé sur un sapin géant de 30 mètres de haut, une centaine de pieds, et il pèse la bagatelle de 7 tonnes et demie. Donc, un monsieur, hein? 7 tonnes et demie. Évidemment, il fait l'admiration des passants, des touristes qui circulent au centre-ville. C'est tout un événement, ça, ce sapin-là. Et c'est un sapin qui est vieux de 80 ans. C'est au mois de novembre qu'on l'installe. Puis là, on a mis 3 semaines à le décorer. C'est un géant. 3 semaines à décorer, ce monsieur-là. Mais, bien sûr, il y a un mais. C'est que cet arbre qui est si beau, cet arbre qui est si haut, bien, il présente une différence fondamentale, c'est-à-dire qu'il est différent d'avec tous les autres, avec ses congénères qui peuplent les forêts d'alentour, avec les autres conifères, c'est qu'il n'y a pas de racines. Il n'y a pas de racines. On l'a passé à tronçonneuse, on l'a planté d'un trou au milieu de la ville, puis là, il fait l'admiration de tout le monde. Alors, pendant toute la période des fêtes, qu'est-ce qu'il va donner comme impression? Il va donner l'illusion qu'il est vivant, hein? Pendant toute la période des fêtes. Puis après les fêtes, le sapin de Strasbourg, eh bien, on va l'enlever, le trou va être rebouché, et cet arbre de Noël si beau, qu'est-ce qu'on va en faire, vous pensez? Une chose ou l'autre. Ah bien, du bois de chauffage, ou quelques planches, puis terminé, on passe ça, on reprend ça l'année prochaine. Et pendant ce temps-là, les autres sapins de la forêt vont continuer à pousser, à vivre en arborant leur beau vert perpétuel. Ouais. Vous pourrez lire ça pour Strasbourg, c'est quand même un événement. Et là-dessus, bien sûr, il y a quelques leçons à retenir. Ce beau sapin vert. La première leçon, ça soulève une question. Réformation ou régénération? Vous allez comprendre. Réformation ou régénération? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui peuvent ressembler à cet arbre-là, un sapin. Sapin de Noël. Ils ont une apparence de vie religieuse. On peut avoir une apparence de vie religieuse. On peut posséder une solide culture chrétienne, on peut fréquenter les réunions de l'Église régulièrement, accomplir même des œuvres de bienfaisance, oui, mener une vie rangée, bien bon monde, mais ne pas avoir de relation personnelle avec Dieu. Ne pas avoir de relation personnelle avec Dieu. C'est des gens qui possèdent la forme, une apparence de piété, comme on l'a lu tantôt dans Colossiens, qui, comment dire, produisent des œuvres extérieures, mais ils ne sont pas sauvés, pas sauvés. Des personnes qui n'ont jamais expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie. 2 Timothée 3:5 qu'on a lu, ayant l'apparence de la piété, hein, l'apparence de la piété. Et il y a un commentateur qui a dit ceci en ces mots, « Avoir une forme forme, sans la force, une religion, mais sans réalité. Et peut-être que ces gens-là, il y a eu une réformation, c'est-à-dire qu'ils ont fait des efforts pour changer des choses dans leur vie, pour s'améliorer, une réformation, mais il n'y a pas eu de régénération, de nouvelle naissance. Alors donc, si notre foi se résume à appartenir à une religion d'œuvre, eh bien, on est un peu comme cet arbre de Noël. Hein? On est décoré, belle décoration, ça paraît bien, mais il n'y a pas de vie en réalité. On présente alors une apparence de vie, et face aux autres chrétiens, on est en train de leur passer un sapin, hein, comme on disait tantôt. Mais, bien sûr, si nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur, personnel, eh bien, alors notre vie spirituelle est enracinée en lui. Là, la vie est là, vraiment là. Et Colossiens 2, 6, 7, je vous le relis, on le lit tantôt. Alors, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. Alors, la question se pose, on peut s'interroger, je sais, je vous connais, la majeure partie d'entre vous ici ce matin, je vous connais comme étant des chrétiens authentiques et j'en ai pas le moindre doute, mais la question peut se poser pour certains peut-être. Ma foi n'est-elle qu'une apparence ou est-ce qu'elle découle vraiment d'une relation vivante avec Dieu? Est-ce qu'il y a eu régénération, nouvelle naissance? Et il y a un verset que j'aime souvent lire et relire dans Jérémie, c'est sans qu'on y tourne, je vais vous le lire, c'est Jérémie 17, versets 7 et 8, qui nous dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. » On passe à travers des épreuves quand on est un chrétien authentique. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, quand ça va mal des fois, hein, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse de porter du fruit. Alors, béni, béni soit cet homme, béni soit cette femme qui se confie en l'Éternel. Alors, voilà une première application ici. Régénération ou réformation. Deuxièmement, une nouvelle vie. On a dit que le sapin, toujours vert, symbolise une vie constamment renouvelée. Hein? Les aiguilles, toujours vertes, 12 mois par année, nous parlent d'une vie qui est constamment renouvelée. Et à cet égard, ça nous rappelle une vérité qui est glorieuse pour nous, les chrétiens. Glorieuse pour nous, les chrétiens. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, on ne prendra pas le temps d'y tourner, je vais vous lire le verset. Il dit ceci, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur et notre homme extérieur. L'homme extérieur, c'est notre corps physique. Et l'homme notre corps physique, je n'ai pas une bonne nouvelle pour vous, et pour moi non plus, il s'use, il vieillit, il dépérit graduellement. Et ça, c'est une loi implacable. Les scientifiques appellent ça la loi de la thermodynamie. Tout ce qui est créé a une tendance inévitable vers une détérioration régulière. Quand on est aujourd'hui, le 14 décembre. Le 14 décembre 2024, on était tous plus jeunes qu'on est là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, c'est une moins bonne nouvelle. On est un an plus vieux, et peut-être qu'il y a des petits bobos qui sont sortis chez certains. Moi, j'en découvre d'année en année. C'est curieux, je ne cours pas après, ils viennent tout seuls. Hein? Ouais. Ils viennent, ils se présentent là, tout seuls. Ouais. Mal ici, mal là, etc. Non, notre homme extérieur, le corps physique, il s'use, il vieillit, il dépérit. C'est une loi implacable. Mais nous, chrétiens, et ça, c'est la bonne nouvelle, on est habité par l'homme intérieur. Et dans, bibliquement parlant, l'homme intérieur, c'est l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est l'élément éternel qui habite en chaque croyant authentique. Il y a un homme nouveau qui habite là. Le Éphésiens 4, verset 24, l'apôtre décrit l'homme nouveau, c'est, je préfère me profier à mes mémoires, c'est écrit, « à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Créé selon Dieu. Alors, cet homme nouveau en nous, que nous possédons depuis qu'on est converti au Seigneur, il se renouvelle, lui. Il se renouvelle de jour en jour. Une vie continuelle qui demeure fraîche, vivante. Une vie nouvelle en nous, constamment renouvelée. Alors, la parole de Dieu nous incite, nous exhorte à vivre selon cet homme nouveau, en regardant aux choses invisibles. Et d'ailleurs, dans le même passage de Corinthiens que je viens de vous lire, dans le même, quelques versets plus loin, l'apôtre Paul, il dit, « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Éternelles. Si je veux vivre selon cette nouvelle vie qui est en moi, et je devrais regarder aux choses invisibles. Mais ça, c'est pas... Écoutez, agir de cette façon-là, c'est pas vivre dans les nuages, puis être irréaliste, puis pas trop savoir ce qui se passe autour de nous. Pas du tout. C'est agir avec un grand discernement spirituel de regarder aux choses invisibles. A.W. Tozer, je ne sais pas si quelqu'un le connaît, c'est un homme qui a fait vraiment sa marque, il est auprès du Seigneur depuis longtemps. Il a dit ceci. Il a dit que le monde invisible décrit dans la Bible, c'est le seul monde réel. C'est le seul monde réel. Parce que le monde visible qui nous entoure va disparaître. Tôt ou tard, tout va disparaître. L'apôtre vient de vous lire dans 2 Corinthiens 4, 18, les choses visibles sont temporaires. Les invisibles sont éternels. 1 Jean 2, 17 nous dit que le monde passe et sa convoitise aussi, ça va disparaître. 2 Pierre 3, verset 10, il dit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Consumée. Il y a une explosion nucléaire, cosmique, qui attend l'univers. Rien de moins. Puis là, je ne suis pas en train de jouer aux prophètes de malheur. Je dis simplement ce que la Bible nous annonce. Les choses visibles, chers frères et sœurs, vont disparaître. Pour faire place, bien sûr, à nouveaux cieux, nouvelle terre, où la justice va habiter. Il n'y aura plus de péché, plus rien. Mais je ne veux pas trop déborder le sujet, je reviens. Les choses visibles, c'est les choses réelles. Parce que le monde visible qui nous entoure va disparaître bientôt. Alors donc, je pense que la solution est facile à trouver, Cherchons donc les choses d'en haut. Attachons-nous aux choses d'en haut. Et il y a beaucoup de versets que je vous lis ce matin, mais bon, vous les connaissez, vous pouvez les noter. Colossiens 3, versets 1 à 4. Colossiens 3, versets 1 à 4. Pas nécessaire que vous tourniez. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, cette vie nouvelle en nous. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. » Quelle promesse merveilleuse! Quelle vérité qui devrait nous motiver et orienter notre vie vraiment dans le bon sens. Et dans le même passage de Colossiens, quand vous pourrez lire chez vous dans les versets 5 et plus, là, toutes les exhortations qui sont là, comment procéder, dans le fond, pour s'attacher aux choses d'en haut? Eh bien, c'est de vivre pour plaire à Dieu, hein, évidemment. Alors, je dirais, si on vient aux arbres, vous avez remarqué que les arbres, en général, leurs branches, là, ça va vers le haut, et puis ils cherchent la lumière, tout le temps. J'ai chez nous un balcon, puis j'ai trois érables devant le balcon, puis quand il y a une branche qui est à l'ombre un peu, là, elle tourne comme ça, puis elle va chercher la lumière. La Bible nous dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Comme les arbres dirigent leurs branches vers le ciel, vers la lumière. À plus forte raison, nous, les chrétiens, regardez aux choses d'en haut, aux choses invisibles, aux choses qui vont durer éternellement. Ce qui veut dire faire tous nos efforts pour plaire au Seigneur. C'est comme ça qu'en tant que chrétien, on vit heureux et épanoui. Heureux et épanoui. Parce que les choses de la terre, ce n'est que, bien sûr, il faut vivre, faut être réaliste aussi, là. Hein? On vit dans l'espace, le temps, la matière, mais nos affections premières devraient être les choses d'en haut, les choses de Dieu. Élevons nos âmes vers Dieu. Vivons selon cette vie nouvelle, cet homme nouveau qui est en nous. Cet homme nouveau qui se renouvelle en nous en pratiquant la justice, en vivant pour Dieu et avec Dieu. Et ça nous amène à la dernière petite leçon. Une fête à célébrer. Une fête à célébrer. Bien sûr, je vous souhaite personnellement de joyeuses fêtes avec les vôtres, avec ceux que l'on aime. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège durant cette période. Mais rappelons-nous une chose, c'est que le jour de notre conversion, il y a une nouvelle vie qui a débuté. Quand quelqu'un devient chrétien, il y a une vie nouvelle qui débute. Une vie nouvelle que la Bible qualifie de fête. Et ça nous amène à un autre verset, 1 Corinthiens 5, verset 8. 1 Corinthiens 5, verset 8, je vous fais la lecture. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. De quelle fête il s'agit ici? Bon, on n'a pas le temps d'étudier le passage, mais sûrement que plusieurs d'entre vous le savez, il ne s'agit pas du repas du Seigneur, il ne s'agit pas de la Pâque, il s'agit de la vie chrétienne entière. Célébrons donc la fête. C'est ça, cette fête, c'est toute la vie chrétienne. Et en tant que chrétien, notre existence entière devrait être, ben en fait, je vous cite, William MacDonald a dit ceci, « Notre existence entière comme croyant devrait être une fête perpétuelle qu'il faut célébrer. mais certainement pas avec le vieux levain du péché, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. La joie et le cœur. Vous savez, la joie et un cœur pur, ça va ensemble, ça. Si je marche avec le Seigneur, si je marche près du Seigneur, loin du péché, c'est sûr et certain que dans ma vie, il y aura de la joie. Bien sûr, je ne vais pas chanter quand un malheur m'arrive, là, nécessairement, mais il y a toujours cette joie silencieuse en nous qui revient quelque part. Le Seigneur avait dit à ses disciples dans Jean 15, je crois, « Je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit parfaite. » Et le Seigneur même, très près de la passion, il parle encore de la joie qui est sienne. La joie, ce n'est pas dans le malheur de se mettre à chanter, nécessairement, mais c'est de se rappeler tout ce que Dieu représente pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous. Et si on est moindrement nourri de sa parole, il y a ce petit quelque chose en nous qui nous apporte une consolation et une joie constante quand on le connaît. L'apôtre Paul, écoutez, il était en prison à Rome et il écrit aux Philippiens en leur disant, Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il était en prison, il ne savait pas trop qu'est-ce qui l'attend. Je pense que ça, c'est assez significatif. Ça nous parle. Ça nous parle. Donc, la vie chrétienne, c'est une célébration de joie, en fait, dans tout ce que le Seigneur représente pour nous. Qu'est-ce qu'il représente pour moi, Seigneur, quand je pense à lui? Eh bien, s'il représente, il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est celui qui a pris ma place à la croix, il y a celui qui va venir me chercher bientôt, eh bien, ma vie va être une célébration de joie. C'est une attente joyeuse. Donc, la vie chrétienne, c'est une fête qui a commencé à célébrer dans la vie présente. On va finir. On va continuer ça dans l'éternité. Une fête que nous avons commencé à célébrer, oui, et qui va se terminer dans l'éternité. Qui va se poursuivre, je pourrais dire autrement, qui va se poursuivre dans les jours sans fin de l'éternité. Ici, il y a le psaume 16. On va tourner ensemble pour le lire, parce qu'on va terminer avec ça ce matin, le psaume 16, qui nous parle, en fin de compte, qui nous parle du ciel, ultimement. Verset 11 du psaume 16. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Je répète, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Ça nous fait penser au ciel, à la présence de Dieu, et où on va vivre avec lui pour l'éternité, des délices éternels à la droite de Dieu. C'est indescriptible. Et juste à penser ça, déjà, ça nous aide à garder cette petite joie secrète dans le fond de nos cœurs. Et dans les moments difficiles, dans les épreuves de la vie, rappelons-nous une chose, c'est que l'amour de Dieu, rappelons-nous l'amour de Dieu pour nous, et rappelons-nous que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Oui, je vous souhaite de joyeuses fêtes avec les vôtres, mais n'oublions pas que tous ceux qui sont chrétiens ici ce matin, la plus belle des fêtes a commencé un jour. Le jour où vous avez dit oui au Seigneur. On va prier. Oui, notre Dieu, tu as fait pour nous de grandes choses. Tu t'es révélé à nous un jour. On vivait dans l'indifférence face à toi. Peut-être qu'on prononçait ton nom, mais pas nécessairement pour te louer, au contraire. Mais tu t'es révélé à nous, tu nous as montré que nous étions pécheurs, coupables devant toi. Même les personnes qui pouvaient pratiquer une religion, puis être vraiment, mener une bonne vie morale, mais on était loin de toi. Béni sois-tu de ce que tu nous as sauvés, et maintenant, on marche avec toi. Il y a cette vie nouvelle qui est en nous, l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et Seigneur, dans ta grâce, qu'on puisse vraiment avoir nos regards au bon endroit, avoir les yeux sur toi, les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Quand on pense en vue de la joie qui t'était réservée, tu as souffert la croix. Et maintenant, tu es au ciel et tu nous attends et bientôt, tu vas venir nous prendre. Seigneur, que l'on puisse vivre, oui, en regardant aux choses d'en haut, aux choses invisibles qui vont demeurer pour l'éternité. Et que notre vie, ce soit une vie qui se renouvelle, qu'on profite de cette vie éternelle que tu nous as donnée. On te le demande en nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.